Manuel, tu es le monteur de ce film. J'avais lu que le montage, tu avais fait le montage aussi avec Juanjo, avec le réalisateur. Et donc le réalisateur annonçait qu'il avait voulu faire ce film parce qu'il voulait, à travers des images d'archives, des souvenirs, etc., et surtout toutes les images qui étaient passées dans les télévisions et un peu partout, essayer de comprendre comment la dictature, cette dictature, avait façonné la société paraguayenne, comment elle l'avait influencée, et comment elle avait aussi, d'une certaine façon, quel avait été l'impact sur sa vision du Paraguay et ses sentiments et sa formation. Donc, la première question, c'est comment vous avez travaillé. D'abord, quelles ont été les images d'archives que vous avez utilisées? Est-ce que ça a été facile de les avoir? Parce que je suppose que le Paraguay, aujourd'hui, n'a pas trop envie qu'on parle de cette histoire de la dictature, que ce sont les mêmes personnes et les mêmes qui sont encore au pouvoir aujourd'hui. Donc il y a une continuité de cette dictature et de ce le fait qu'on ne parle pas, on parle pas dans la société paraguayenne, on ne parle pas de la dictature ni de tout ce qui s'est passé. Donc comment vous avez fait pour avoir ces images d'archives? Qu'est-ce que ça a représenté comme temps et aussi financièrement?
Bon, merci pour toutes les questions. Merci pour Esther. Et Juanjo, maintenant, il a 32 ans. Donc, il a moins que toute la dictature.
Il a combien?
32.
32 ans.
Maintenant. Mais quand on a commencé à faire le film, il avait 25. Et moi, 27. Et moi, je suis argentin. Donc, quand je lui ai connu, il m'a raconté toute l'histoire de la dictature du Paraguay. Et moi, comme argentin, je ne le savais pas. Donc, ce n'est pas que seulement à l'Europe, on ne savait rien du Paraguay. Aussi en Amérique latine, une personne connue a connu Stroessner. On ne savait pas à 35 ans. Donc, quand il m'a commencé à raconter l'histoire, il me disait qu'il ne savait pas quel type de film il veut faire. Il a commencé comme une investigation. À 18 ans, il est allé à Buenos Aires, à l'université de Buenos Aires. Et quand il est entré à l'université, il a vu un drapeau géant de 35 mètres avec tous les visages de tous les disparus de l'université de Buenos Aires. Donc, quand il a quitté Paraguay, il s'est rendu compte de l'histoire de son propre pays. Et comme thèse de l'université, il a commencé à chercher des archives sur l'histoire du cinéma paraguayen. Non de la dictature, l'histoire du cinéma en général, du XXe siècle. Et il a trouvé très peu des archives, mais dans cette investigation, il a commencé à rencontrer qu'il y a eu des autres documentalistes dans son pays qui sont trouvés et ils ont enregistré aussi des archives dans les années 80, dans les années au fin de la dictature, quand les vidéos ont commencé à être un peu faciles que le peuple peut enregistrer aussi. Donc les premières archives qu'on a eues, ce sont de la fin de la dictature. Et la question était, où sont les archives des années 50, 60, 70, 80? Et ce sont beaucoup d'années, beaucoup d'images qu'on n'avait pas. Donc le film a commencé comme une question de où est l'histoire du Paraguay. Et Juanjo, avec Sofía, que est l'autre documentaliste, elle est copine de l'université de Juanjo, ils ont commencé à chercher le mot Paraguay dans toutes les cinémathèques du monde, qui a, par exemple, avec Lina. Ils ont mis Paraguay. Donc, il avait une liste très grande de l'INA. Je crois que vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'archives de la France. Et c'est ça qu'il a commencé comme une cinémathèque de Paraguay qui n'existe pas, mais il a commencé à le faire. Il a mis Paraguay et Stroessner. Ce sont les deux mots-clés qu'il a commencé à mettre avec Sofía. Et donc, ils ont commencé à faire un Excel avec tous les archives qu'il avait. Ils sont des journaux télévisés, et quelques films que la France a enregistrés, par exemple Les Barrages d'Itaipu. Il y a un film complet que c'est de la télévision française. Là où la fin nous dit il remercie à tous les camarographes anonymes. Bon, il y a des noms et prénoms de cette personne. Donc, on a commencé à trouver bon, Mengele, quand tu mets Paraguay Sturzner, le troisième mot qui apparaît comme une liaison, Mengele, Itaipu. Donc, on a commencé à trouver qu'il y avait beaucoup, mais rien est à Paraguay et rien est du Paraguay. Donc, l'extérieur a commencé à être une idée très intéressante pour lui. Bon, si je n'ai pas des archives de mon propre pays, bon, qui raconte l'histoire de mon pays? Moi, je le peux raconter avec les montages, mais avec des archives qui sont à l'extérieur. Donc, les premières années, 2019, on a commencé, on l'a fini l'année dernière, 2025. Et pendant la pandémie, on a commencé à trouver beaucoup de Taïwan, de l'Angleterre. L'Angleterre, il coûte 1000 euros les minutes. Et pour nous, en Amérique latine, ça c'est le salaire minimum pour un travailleur. Donc le film a décidé de trouver des soutiens à l'extérieur aussi, mais pour payer les archives qui sont à l'extérieur. Donc il y a une contradiction pour moi comme montage. Tout le temps, je veux peut-être une image que je n'ai pas la semaine prochaine quand on découvre le prix de les archives. Bon, ça, on ne l'est pas payé, donc elle est
écartée.
Mais qu'est-ce que nous devons faire avec cette omission d'accéder à ces archives? On a continué à chercher, et peut-être l'image de Mengele, c'est le plus cher, je pense que comme beaucoup des archives de les nazis, et que c'est possession de l'Angleterre. Bon, on ne peut pas payer. Bon, on doit utiliser une photo d'un film et que tu peux l'utiliser. Une photo, tu peux l'utiliser. Il y a beaucoup de la conception graphique et avec des photos. Et a été une façon de... oui, pour... Si on ne peut pas l'utiliser, on doit être très imaginatif. Moi, comme monteur, et Juan aussi comme réalisateur, on a décidé, bon, c'est un montage expérimental, mais on a tout le temps des difficultés. Parce que, imagine, tu travailles une semaine, je ne sais pas, les barrages d'Itaipu. Il y a beaucoup de points de vue de caméra. Mais Brésil a perdu les originales de les journaux télévisés. Et les uniques originales, c'est le film de Lina. Bon, tu dois utiliser ça, mais pour nous, ça est très important. Donc, dans le montage, tu dois... il y a l'importance des archives, qu'il y a peu d'argent. Bon, quelles archives on peut payer et on doit utiliser. Par exemple, les deux témoignages qu'il y a des exilés paraguayens en France, pour moi, je ne peux pas négocier ça. Ça doit être oui, et pour Juanjo aussi, le réalisateur. Donc, on a commencé à établir une relation de bon, les plus importantes, les plus chères. Pour moi, ça, je crois que c'est le montage le plus difficile. Non pour la complexité créative, sinon parce que le système industriel des archives provoque tout le temps que tu as des difficultés, surtout si tu es latino-américaine et tu dois... avoir des soutiens de l'Europe pour payer à l'Europe les archives de l'histoire latino-américaine. Pour moi, ça, on peut écrire un livre de ça. Mais à la même fois, à la même temps, ce sont les uniques archives qu'on a de Paraguay, qui se sont enregistrées par la France, par exemple. Et donc, pour moi, ça a été très difficile, pour Juan aussi, parce que tu dois aussi faire beaucoup de... je ne sais pas, chercher tout le temps. Et on sait qu'il y a plus. Il y a, dans d'autres pays, peut-être il y a beaucoup d'archives de Sturzner, mais dans un moment, on doit arrêter. Parce que si tu continues, les films ne finissent pas, et toi, tu les soutiens que tu dois finir. Bon, c'est l'histoire du capitalisme à la même fois que l'histoire du système industriel du cinéma, que c'est une industrie. Donc, pour moi, c'est... C'est très compliqué de raconter tous les détails, mais Je crois que toutes les difficultés qu'on a eues avec le film provoquent que le film existe. Donc le film a beaucoup des histoires. Tu as beaucoup de films ici, tu peux faire un film de Barrage, tu peux faire un film de Mengele, tu peux faire un film qu'est-ce qui s'est passé avant Stroessner, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il est, comment il arrive au pouvoir. Et, bon.
Je vais donner la parole au public. Oui, ce qui est extraordinaire, c'est que le film, vous ayez pu le faire, et surtout que le film est en distribution en France. Il va être distribué par Vrai Vrai Film, donc il a été acheté par un distributeur français, ça c'est incroyable. Donc merci pour ce film, merci pour ce travail extraordinaire de montage. Et ma question, c'est que dans le film, il y a toute une partie de la narration qui est en français, et donc tu expliques que de nombreuses archives étaient en France, et Talina, et donc... Mais est-ce que c'est un choix que vous avez fait de garder cette narration en français, même si on sait que eh bien, vous avez travaillé avec des archives que vous arriviez à trouver et que vous arriviez à payer?
Merci. Et oui, c'est une décision parce que l'idée du film, c'est raconter l'histoire du point de vue de Paraguay, mais aussi du point de vue de l'extérieur, du point de vue international. C'est une décision. On a essayé avec l'intelligence artificielle de quitter les voix en off en français qui traduit les témoignages de l'exilié et de les torturés. Mais après, on a décidé de les laisser parce que ça, c'est la façon de comprendre. Et oui, en France, en 78, on parlait de les exiliés en Paraguay. Il y a des films, il y a en la télé. Mais pour nous, et c'était intéressant qu'on peut avoir différents langages dans le film, parce que c'est une chose internationale. Le plan Condor, ce n'est pas en Brésil, non, il est en France, et il y a beaucoup d'exilés argentins, chiliens, brésiliens, paraguayens, boliviens, péruviens. Et donc, qu'un voix off traduit les témoignages, pour nous, c'est une façon de dire. Il y a un colonialisme de traduction de langage, mais c'est la façon de raconter l'histoire. C'est la façon de laisser qu'il y a quelqu'un qui traduit un témoignage.
Donc merci, merci pour ce film. Je vais parler en espagnol parce que le Paraguay, c'est mon pays. Donc mon histoire est traversée par cette histoire du Paraguay. Il y a des choses que nous, Paraguayens, on ne parle pas, même entre nous, entre Paraguayens. Dans ma famille, il y a deux disparus. Je voulais poser des questions sur le son, sur les sons, sur les bruits qu'il y a dans le film, et aussi sur les, je ne sais pas comment on dit à l'image, les rayures qu'il y a à l'image. Est-ce que vous avez décidé, pourquoi vous avez décidé de garder ça? Et aussi les transitions, comment vous faites les transitions lorsque Stroessner a été élu, ensuite, comment se font ces transitions?
Bon, gracias. Primero, je parlais en espagnol, gracias, qué lindo. Escuchar a alguien de Paraguay acá dentro.
Hablar en francés,
pero quería hablarle primero en español.
Je
voulais la remercier en español. Vivo en Latinoamérica. Les sons. Moi, je suis musicien. Juanjo aussi, il est très intéressé à l'art sonore. Donc, toute l'idée, le matériel, la majorité sont muettes. Il n'y a pas de son. Donc, on a commencé à regarder les détails, et les mouches, c'est comment on dit,
les mouches.
Les mouches, c'était une idée qu'on a regardée dans une des images, et on a commencé à l'utiliser comme un patron, comme quelque chose qui va commencer comme un. Oui, quelque chose qui se pourrit, comme un gouvernement qui a 35 ans.
Qui pourrit.
Donc, on a commencé à utiliser les sons, il n'y a pas de voix en off. Donc, de quelle façon les sons peuvent raconter quelque chose sensoriel que on ne veut pas le dire, sinon provoquer des sensations, comme tu dis, quelque chose physique, que dans le cinéma c'est très important pour nous. Et pour moi, que je suis aussi, je fais de la conception sonore au cinéma, je crois qu'il y a quelque chose qu'à l'ordinateur tu ne peux pas le sentir. Donc oui, toute l'idée naturelle de le paysage de la Paraguay et les animaux, il y a quelque chose qui est là que pour nous était très intéressant de l'utiliser pour raconter une histoire qui n'a pas de parole. Mais après, quand tu vois, quand tu regardes le général Rodriguez, qui est dans l'anniversaire de Stroessner, il y a un mouche qui... Ça, c'est quelque chose aussi qui peut faire, non de la comédie, mais oui, que tu penses cette chose de l'ironie, non? De peut-être ne raconter quelque chose, mais tu peux provoquer que les gens rient dans un moment qui tu ne comprends pas ce qui se passe. Donc oui, et tous les... Comment c'est?
Les rayures.
Les rayures, oui, ce sont des choses du matériel, mais quand on est en montage, c'est une façon de, aussi de donner un peu de rythme expérimental, quand tu regardes quelque chose qui a l'image, mais peut-être tu n'écoutes pas l'image, parce que l'image est muette, mais on a, avec Julien, qui est le concepteur sonore, il a fait beaucoup de détails qui sont comme ça, faire des petits détails sonores qui peuvent provoquer quelque chose, comme les sons des animaux, comme les sons de la nature. Il y a un peu de violence aussi. Pour moi, quand nous sommes en train de faire le montage, le musicien est le meilleur ami de Juanjo et le concepteur sonore est mon meilleur ami. Donc il y a tout le temps un dialogue entre montage et son. Ce n'est pas que le son est arrivé à la fin du film. Au début du film, avec Juanjo, on fait beaucoup d'exercices de montage avec le son. Et après, Julien fait autre exercice de son dans le montage que nous l'avons donné. Il retourne. C'est comme ça, c'est un dialogue qui a été très important pour le film, sinon on ne peut pas, je crois, arriver à ce type de narration plus expérimentale, je crois. Et l'autre question? Ah, les transitions de scène. Oui, imagine toutes les choses qui ne sont pas racontées dans le film. Donc, on a utilisé cette rouge, ce moment de séparation, que peut-être c'est comme d'ellipsis,
une ellipse.
Oui, oui. Après, tu regardes une image d'une élection qui est en 1959. La prochaine image, c'est Stroessner, 17 ans de paix. Donc, il y a quelque chose de sentir la transition de les années. Mais pour moi, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans le film. Et on a trouvé quelque chose de rythme, de montage. Peut-être quand une chanson finit, bon, il finit d'une façon violente pour recommencer. Il y a beaucoup de scènes qui ne sont pas dans le film. Et peut-être quand tu quittes quelques scènes, tu sens que... Peut-être c'est moi, mais tu sens que quelque chose qui manque. Mais on a utilisé ce rythme plus violent et peut-être plus rapide dans quelques moments pour faire cette transition de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Et il y a, si tu regardes structurellement le montage, il y a cette rouge entre peut-être mathématiquement au minute 15, au minute 30, au minute 45. Ce sont des transitions aussi d'informations que tu as dans le film. Et tu as besoin d'un peu d'un pause.
Oui, bonsoir. Bravo pour ce film. Moi, je viens d'une formation historique et j'aime beaucoup les archives. Et donc, ça m'a intéressé. Je voulais savoir quand même, c'est un peu la suite de la question précédente, pourquoi la trame chronologique n'est pas strictement respectée? Pourquoi il y a des allers-retours? Alors je prends un exemple, on nous parle d'une détenue en 1982, puis du voyage de Stroessner en Europe notamment, qui se passe au début des années 70. Pourquoi il y a eu ce choix de ne pas respecter une chronologie stricte des événements?
Oui, le film, l'idée structurelle, c'est Stroessner 1954, à la fin Stroessner 1999. Donc il y a des moments que nous avons besoin de ne faire tout le temps la chronologie vérifiée, parce qu'on a besoin de peut-être voyager dans le temps, comme une télépathie entre toutes les époques. Et il y a quelque chose que je pense, peut-être tu t'es perdu quelques moments, mais oui, dans le moment du Japon, il y a quelque chose de Stroessner à 1960, mais coupe à 1980. Il y a quelque chose, pour nous, c'est conscient de cette télétransport d'époque, mais ce sont des jeux de montage pour ne faire la même chose tout le temps. C'est pour ça. Ce n'est pas pour confondre. Et ce n'est pas pour confondre les spectateurs, ce sont petits moments pour tromper les spectateurs, ce sont petits moments de un peu de jeu, de sentir que c'est la même personne tout le temps, dans les 60 et dans les 80. C'est pour ça seulement.
Merci pour ce film. Question de montage et surtout question de travail. On sent que c'est un film à plusieurs mains, plusieurs écoutes, important. Je suis content que, ça soit que vous soyez monteur et que vous soyez avec nous. Parce que souvent, le réalisateur prend beaucoup de place. Et on sent que ce film est habité par vous aussi. J'ai aimé la narration qui se déconstruit, la narration, les rembobinages, l'humour dans le montage et l'humour de la mouche qui passe. Ça, j'ai beaucoup aimé. Alors, comment, voilà, à plusieurs mains comme ça, on sent votre travail, ça se voit énormément. Voilà, comment vous avez travaillé collectivement, parce qu'on sent que c'est un travail collectif. Voilà, est-ce que vous avez des... Je pense que la personne au son a voulu pousser sur des endroits, vos montages aussi. Vous avez rembobiné des moments qui sont finalement, qui posent une archive ancienne et nous ramènent dans quelque chose de contemporain. Qui nous, je pense que ça nous rappelle de suite ce qui se passe aux États-Unis. Ça a des images qui reviennent alors que c'est des archives. Comment vous avez travaillé ensemble et comment vous avez pu équilibrer vos visions artistiques et cinématographiques?
Merci pour ta question et tes paroles. Et, par exemple, j'ai connu Juanjo en 2019. Mais il n'a pas eu. Il a fait un court-métrage. Mais moi, je suis membre d'un collectif artistique de l'Argentine, que je suis le monteur et musicien, et je travaille. Ce sont mes amis de que j'ai 18 ans. Et il y a 4 des membres du collectif qui sont dans le film. Et 5. Donc, la plus partie du collectif est entrée dans le film après que je suis le monteur. Je lui ai présenté à Juanjo mes amis. Il a commencé à être ami du directeur de photographie de la dernière image, et de la conception graphique de la personne, de Julien qui est le concepteur sonore. Donc il y a un travail collectif qui est aussi comme une biographie qui existait avant ce film. On a travaillé beaucoup ensemble avec Julien, par exemple, qui est aussi réalisateur, et le film où j'ai fait le montage. Et il fait la conception sonore. On a fait déjà 8 ou 9 films, entre court-métrage et long-métrage. Donc, quand on a commencé à travailler avec Juanjo, tout le temps, on a comme une relation préhistorique à le film. Et oui, c'était un travail très, pour moi, intéressant. Moi, je suis aussi poète, musicien, je fais aussi des arts visuels. Et Juanjo est intéressé à les arts visuels. Et tout le temps, il ne voulait pas un film avec des one-off. Donc, ça provoque que tu dois faire quelque chose, peut-être plus artistique, peut-être plus difficile, mais ça a provoqué qu'on trouve des différentes façons de faire quelques idées, comment raconter la première étape de le gouvernement d'une dictature, de son pays. Personne ne l'avait fait. Donc, aussi, nous avons beaucoup d'espace, beaucoup de... Il y avait un vide de l'histoire du cinéma paraguayen. Ce n'est pas comme en Argentine que l'on a beaucoup de films militants pendant la dictature. Il y avait des films incroyables. Et maintenant, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu connais Jorge Cedrón, que c'est le réalisateur de Opération Massacre. Bon, il y a des films que cette personne a fait pendant la dictature, mais de l'histoire paraguayenne, on n'a pas cette histoire créative de cinéma militant ou de cinéma expérimental. Donc, Juanjo tout le temps me dit, bien sûr, tu es argentin, j'ai de la confiance, mais on ne doit raconter pas cette histoire sur le point de vue argentin. Cette histoire, c'est le point de vue paraguayen. Donc, comment faire un film qu'on n'a pas de référence artistique ou cinématographique, mais toute l'équipe est argentine. Donc, on a commencé à faire des exercices. pour nous, beaucoup. Et...
On a fait des essais et erreurs.
Oui, pendant 6 années. Mais tout le temps, Juanjo m'a donné une liberté artistique et il lui-même s'est donné une liberté artistique parce que cette difficulté de n'a pas de n'utiliser un bois neuf pour raconter une histoire, c'est difficile. Mais ça, il a, je ne sais pas, 30 ans, c'est son premier film. Il n'a pas rien à perdre. Donc on a fait beaucoup de, comme tu dis, un travail parallèle entre montage et son, tout le temps. Et chaque mois, ou chaque 3 mois, tous les essais que je fais, Julien fait un... il met des ambiances, les copains de Juanjo qui vivent avec lui en ce moment, il est le musicien, dans une chambre était le musicien, dans l'autre chambre je suis en train d'utiliser les sons que le musicien, que c'est toute la musique électronique qui a cette cette touch contemporaine peut-être, de ne respecter trop. Les archives. On doit aussi avoir l'ironie avec l'humour et aussi avec l'obscurité du présent qui est sur l'ultra-droite, sur les génocides online, sur toute cette obscurité qu'on doit vivre quotidiennement. Et bon, pour nous, c'est une décision artistique de faire cette approche à les images comme ça, avec montage, avec son et avec des idées. Et je ne sais pas, qu'on a découvert pendant le film. Ce n'est pas que c'est un film que il s'est réveillé un jour et il a fait tout. Non, il y a beaucoup d'années qu'on a eu aussi peur, parce que si tu fais ce film, peut-être Berlinale ne t'accepte pas. Bon, tu as fait un film qui n'a pas de bon enough. Et c'est tout le temps, tout le monde dit, ah, pourquoi il n'a pas de bon enough? Personne ne va comprendre. Et tout le temps, tu as 30 ans, et tout le monde te dit la même chose, dans toutes les industries, dans les festivals, mais aussi, à la même temps, tout le monde te dit, ah, c'est un film de la dictature du Paraguay, personne n'a fait rien avec ça. Et moi, je suis le monteur, je dois écouter ce que les réalisateurs ont écouté dans tous les festivals, et je tout le temps les dis, on doit continuer, et on ne doit pas avoir peur du futur. Le futur, c'est ce moment-là, et c'est avant toutes les choses qui sont dans le monde maintenant. Le film sort en salle en mars de 2026, et nous ne savons pas que le monde sera comme ça. Et pendant, nous avons monté en 2020, que c'était la pandémie. Maintenant, on est à un autre moment de l'histoire terrible, et ce n'est pas une pandémie, c'est une pandémie mentale qu'il y a... de la violence, de la guerre, des génocides, de l'ultra-droite. Donc, je crois que c'est intéressant de n'avoir peur de dire ce que nous voulons.
Merci.